L'atelier numérique.
L'atelier numérique.
François Sorel sur BFM Business.
C'est l'atelier numérique sur BFM Business. Merci d'être avec nous. En ce samedi après-midi, tout à l'heure, on retrouvera notre French Tech Tour. On s'intéressera au marché de la publicité mobile en France. Et puis, on parlera d'AgTech, de croisement entre agriculture et tech. Ce sera notre dossier de l'atelier. Et puis, la rédaction de 01net.com me rejoindra tout à l'heure avec Éric Le Bourlou pour jeter un œil sur les gros titres d'actualité de la semaine. Mais auparavant, ma chère Lila, eh bien, c'est notre passion selon Sanette et on va parler aujourd'hui de Civic Tech.
Ben oui.
Alors, vous vous dites, vous qui nous écoutez, mais qu'est-ce que c'est que ce truc-là, le Civic Tech? Eh bien, c'est le fait de pouvoir redonner le pouvoir aux citoyens grâce aux nouvelles technologies.
C'est ça, tout à fait.
Eh bien tout voilà, tout fait. Est dit. Merci beaucoup. Non, quand même. On va
merci beaucoup à nos invités. Alors, on a le plaisir d'avoir en studio Nicolas Debrier. Bonjour.
Bonjour.
Alors, Nicolas Debrier, vous êtes associé et CEO de Fluicity. On parlera plus tard de l'initiative, enfin de la start-up. Et Pascal Derville, bonjour.
Bonjour.
Pascal Derville, vous êtes fondateur et président de l'association FACEP, qui est l'association française pour l'éducation civique
et la participation.
Et vous êtes également à l'origine de la plateforme questionnezvoselus.org. Alors, si, messieurs, vous deviez donner une définition des civic tech, quelle serait-elle? Est-ce que vous acquiesciez, vous êtes d'accord avec cette définition de redonner du pouvoir aux citoyens par les nouvelles tech? Nicolas Debrier?
Oui, je pense que c'est effectivement une très bonne définition. Si je peux en rajouter quelques précisions, en fait, la civic tech donc vise à créer davantage d'engagement du citoyen et aussi à rendre en fait les gouvernements plus transparents grâce aux technologies.
D'accord. Petit exemple, est-ce que vous pouvez nous en donner un ou deux pour qu'on maîtrise bien?
Tout à fait. Donc, au lieu de lancer un projet dans sa ville, en fait, en ayant fait éventuellement une étude préalable et finalement en ayant décidé au sein d'un conseil local de quels étaient les besoins et la meilleure manière d'y répondre, une autre possibilité en fait est de faire remonter la voix des citoyens et eux-mêmes leur donner l'initiative au niveau de la proposition de projet et ensuite de soutenir ces projets si on voit qu'ils ont recueilli par exemple un grand soutien au niveau de la population.
D'accord.
Alors, on va en parler avec un peu plus de détails tout de suite après, notamment avec Fluicity. Pascal Derville, votre définition, elle se rapproche de celle donnée par Nicolas Debrier.
Oui, tout à fait. Pour moi, c'est toutes les initiatives qui s'appuient sur le numérique pour améliorer le fonctionnement de notre démocratie. Donc aujourd'hui, je peux signer une pétition sur change.org, je peux interpeller un élu sur questionnezvoselus.org, je peux comparer les programmes sur vox.org, je peux participer à un projet collaboratif. Voilà, c'est toutes ces initiatives numériques qui redonnent effectivement un peu de pouvoir aux citoyens.
Mais est-ce que c'est vraiment du pouvoir? Est-ce que c'est pas un peu, on va
la
dire,
parole,
du ouais ou du bullshit? Parce que souvent, enfin, on voit là suite au Brexit, on a eu quand même un immense sondage qui a été fait pour ceux qui étaient contre le Brexit et qui étaient pour le Remain, avec plus d'un million de signatures, je crois, enfin, etc. Alors on en a parlé, mais finalement, bon, voilà, c'est passé à la trappe. Quel est le pouvoir en fait de tous ces votes sur Internet?
Si aujourd'hui on demande de façon très ponctuelle aux citoyens de participer, je pense qu'on risque d'avoir des surprises assez négatives parce qu'en fait il faut éduquer les citoyens à la participation et c'est pas une façon ponctuelle de venir avec un sondage, un référendum qui va suffire. Il faut tout d'abord les inspirer, les informer. C'est ce qu'on fait avec Fluicity. On rassemble en fait tous les acteurs de la ville et on leur propose de contribuer en fait à un fil d'actualité au niveau de la ville sur des sujets très concrets sur lesquels les citoyens peuvent s'exprimer. Et c'est à partir de là en fait qu'on commence à réapprendre en fait la participation.
Oui, donc il faut régulièrement participer.
Il faut régulièrement participer.
D'accord.
Moi, je dirais qu'aujourd'hui, l'impact, pour être honnête, est tout à fait marginal. Pour autant, il y a une vraie lame de fond. On a été reçu récemment par le gouvernement. Moi, j'ai démarré le projet il y a 3 ans. On était 3 ou 4 initiatives. Aujourd'hui, il y a plus d'une dizaine d'initiatives. On sent que le gouvernement s'y intéresse. On sent que les parlementaires s'y intéressent. C'était pas du tout le cas il y a 3 ans. Donc là, on sent vraiment une montée de cet engagement citoyen. Et je pense que ça ne va pas s'arrêter.
Alors, comment se présentent exactement vos plateformes? Commençons par questionner vos élus.
C'est très simple. Vous rentrez votre code postal, vous voyez apparaître l'ensemble de vos élus et vous pouvez leur poser une question. Nous, on va vérifier que votre question respecte nos règles de modération, qui sont des règles de bon sens. On va vérifier que la question n'a pas déjà été posée, pour éviter que l'élu réponde 10 fois à la même question.
Oui.
Et si ces règles sont acceptées, à ce moment-là, on valide la question. C'est envoyé à l'élu, qui va y répondre ou non par mail. Aujourd'hui, on a, après 3 ans, publié 12 000 questions de citoyens et 5 000 réponses d'élus et de candidats, puisqu'on a lancé aussi notre plateforme qui s'appelle questionnezvoscandidats.org. Malheureusement, ce que je dois dire, c'est que les candidats répondent plus que les élus. Donc on a encore énormément de travail à faire
pour convaincre les élus. Pourquoi il n'y a pas plus d'élus que ça qui répondent finalement?
En fait, je crois que aujourd'hui, la Civic Tech, c'est la culture du web, c'est la culture du logiciel libre, c'est plus de transparence, c'est beaucoup plus de collaboratif. Et ça vient complètement percuter le fonctionnement des institutions et des élus qui sont pas du tout dans cet esprit-là.
Mmh.
Donc, ils sont méfiants. Il y en a des maires, le maire de Strasbourg, le maire de Tours, le maire de Châteauroux, le maire de Montpellier, qui répondent bien aujourd'hui aux questions, mais il y a encore énormément de travail, notamment auprès des députés, sans parler des sénateurs.
Et puis j'imagine aussi que tout dépend aussi de la teneur de la question, non?
Oui, mais là, on fait un énorme travail de modération pour justement vérifier que la question est compréhensible par tous et qu'elle n'est pas déjà été...
Si, par exemple, il y a une question dérangeante, mais qui est compréhensible et pertinente...
Ah ben, on va la valider, bien
sûr.
Voilà,
mais peut-être qu'à ce moment-là, l'élu n'y répondra pas parce que ça l'arrangera pas, non?
Effectivement, mais là, c'est de sa responsabilité.
Oui, bien sûr.
Chez Fluicity, votre offre est quelque peu complémentaire, à savoir que vous êtes une espèce de croisée de réseau social quelque part de la ville, savoir que les citoyens ont possibilité de remonter par exemple certains problèmes, mais peuvent aussi sur votre plateforme être informés de l'actu de leur ville. J'ai bon ?
Vous avez très très bien résumé ça. Donc effectivement, en tant que citoyen, je rentre le nom de ma ville et j'arrive d'abord sur une plateforme où je trouve de l'information qui est co-construite en fait par les citoyens. Et qui est aussi de qualité parce qu'on fait en sorte d'avoir des associations, des institutions, des centres culturels qui ont vraiment un intérêt réel au niveau au niveau de l'information citoyenne. Et par ailleurs aussi en tant que citoyen, en fait, je peux poser directement une question à mon élu, signaler un problème, proposer une idée et faire ça sous la forme d'un message à travers une messagerie directe avec l'élu. Et également en fait participer à la construction de ma ville. En proposant par exemple un projet pour la ville et en faisant soutenir par différents citoyens qui peuvent voter pour ou contre. Et puis si on voit que le projet a du succès du côté de la municipalité, on peut venir soutenir le projet en le finançant, en le cofinancement. C'est des pratiques qui sont déjà en train d'être mises en place dans certaines villes, comme je pense à la ville de Gand en Belgique, où ils ont une politique de cofinancement de projets portée par les citoyens qui est très intéressante.
Et quel type de questions vous voyez plutôt émerger sur vos plateformes respectives? Est-ce que c'est des questions davantage basées sur du concret, à savoir dans mon quartier il y a tel ou tel problème, Pascal Derville?
Sur questionner vos élus et questionner vos candidats, c'est très concret. Aujourd'hui, le problème des citoyens, c'est leur logement, c'est leur transport, c'est l'emploi. Et c'est ça, les questions aujourd'hui qui remontent. Alors, on a effectivement parfois des questions plus générales, mais essentiellement, c'est des problèmes très concrets qu'ont les gens.
Est-ce qu'il n'y a pas des questions de programme également sur questionner vos candidats, notamment des problèmes de compréhension de programme? Est-ce que quelque part votre plateforme questionner vos candidats n'est pas le moment pour le candidat de répondre aux questions? J'ai pas compris tel point de votre programme politique, éclairez-moi.
Oui, tout à fait. Lors des dernières élections, on était partenaire de Vox.org, qui est un outil de comparation de programmes. Et c'est là ce qui est intéressant, c'est qu'aujourd'hui, les outils sont assez complémentaires. Le puzzle en France est intéressant. Il y a une dizaine d'initiatives qui sont globalement assez complémentaires. Mmh. Et il y a une vraie vitalité des civic tech en France aujourd'hui.
Nicolas Debrié sur Fluidicity, pareil, c'est des questions d'ordre très très concret.
Voilà, je pense qu'on rentre encore dans un niveau plus concret sur
Fluidicity. Quoi, la lumière, l'éclairage.
Ce sera, oui, par exemple, c'est ça, dans ma rue, il fait sombre, très sombre le soir, ça me donne un sentiment d'insécurité. Est-ce que la mairie pourrait faire quelque chose? Ou tiens, il y a un mur ici dans la ville qui est inutilisé. Est-ce qu'on pourrait pas en faire un mur de street art? C'est un des projets qu'on a eu sur notre ville pilote à Vernon, qui a été fortement plébiscité par la population. Donc on est vraiment sur des thématiques très concrètes. Et qui intéressent en fait les gens au jour le jour, et on voit en fait que ça amène vraiment la participation. Aujourd'hui, en près de 6 mois, on a atteint 6-7% de la population verdonnaise, et on espère bien d'ici la fin des 12 mois de la phase pilote qu'on a fait avec Vernon, d'arriver à 10% de la population sur Fluidicity.
Alors on évoquait la question de l'implication des élus, des collectivités. Est-ce que quelque part il n'y a pas une question d'implication également des citoyens? Je pense notamment, il y a certaines initiatives dites de villes intelligentes qui peuvent échouer. Je pense notamment au stationnement intelligent dans la ville de Nice. Comment on engage le citoyen à prendre la parole, à s'impliquer par le net, par le résultat?
Oui, exactement. En fait, nous, on a, d'après nos recherches qu'on a fait, en fait, on se rend compte que le vecteur le plus important pour engager le citoyen, en fait, c'est lui montrer qu'il y a un impact. Et pour lui montrer qu'il y a un impact, en fait, soit c'est un impact communautaire, c'est lui montrer qu'en fait il y a d'autres citoyens qui le soutiennent, ou bien ce qui est très fort aussi, c'est totalement lui montrer que, lui restituer le fait que ses décideurs politiques, en fait, ont mis en place sa demande, sa requête, et ont agi, en fait.
Pascal Darville, le mot de la fin.
Bah, on va terminer sur une note positive. Effectivement, les citoyens sont prêts à s'engager. On a une énorme vitalité des associations en France. Hein, ça montre que les citoyens s'engagent. On a plus de 85% des citoyens qui pensent que la démocratie est une bonne chose, la démocratie participative. Donc voilà, à partir du moment où ils voient que la consultation est réelle et qu'ils peuvent avoir un vrai impact, ils s'engagent. Ils sont au rendez-vous.
Très bien, à suivre donc. Merci
beaucoup messieurs, amis auditeurs, prenez la parole sur questionnezvoselus.org et Fluidicity. Merci.
Voilà,
merci.
Si les élus nous écoutent, qu'ils répondent, ça serait bien. Voilà. Merci beaucoup. On revient dans un instant, la suite de l'atelier sur BFM Business. Ça sera dans une minute avec le French Tech Tour et le dossier de l'atelier. À tout de suite.
L'atelier numérique.
L'atelier numérique.
François Sorel sur BFM Business.
La rédaction de Zeronet.com sera là dans un quart d'heure avec Éric Le Bourlou. On s'intéressera à toute l'actualité que vous avez pu lire cette semaine, peut-être sur Zeronet.com. Mais auparavant, notre French Tech Tour. Je vous propose de faire un point maintenant sur le marché de la publicité mobile en France avec vous, Aurore Géraud, et votre invité.
Alors, pour le French Tech Tour de cette semaine, nous sommes en compagnie de Philippe Lourenço, que nous avions rencontré à l'occasion des Big Boss également. Philippe est donc président du groupe Mr Bell, spécialiste de la publicité mobile. Bonjour.
Bonjour.
On va parler de marché de la publicité mobile. Ça marche comment en France? Quels sont les usages actuellement?
Bah, les usages sont là. Les usages aujourd'hui, on le sait tous, les gens passent de plus en plus de temps aujourd'hui, consomment de l'internet sur du mobile et sur des tablettes. De manière assez considérable. Aujourd'hui, le trafic mobile représente plus de la moitié du trafic internet, et cela ne va faire que grandir. Donc les usages sont là. L'apparition du smartphone, donc qui est apparu aux États-Unis aux alentours de 2007, a permis aujourd'hui de lancer, de créer ces nouveaux usages. On consomme de l'internet sur du mobile. Donc à partir de là, c'est une opportunité extraordinaire pour les marques, pour les enseignes. On a à faire un nouveau média avec ses nouvelles spécificités, ses nouvelles caractéristiques, et c'est ce qu'on fait nous au quotidien. Nous, comme vous le disiez très bien, on est un acteur de la publicité sur mobile. Notre métier consiste à diffuser de la publicité sur des smartphones et sur des tablettes, j'insiste bien. Donc notre métier, c'est d'aider les marques, les enseignes, à aller toucher des nouveaux clients ou des nouveaux prospects sur ce nouveau média-là. Notre obsession, c'est d'aller toucher la bonne personne avec la bonne publicité, le bon message au bon moment et au bon endroit. Et c'est ce que permet d'ailleurs de faire le mobile.
Et comment on personnalise la publicité pour le consommateur?
Ça, c'est la vraie question. Parce que le gros gros problème de la publicité, c'est que elle devient, on le sait, c'est un sujet d'actualité, c'est un sujet du moment, on parle beaucoup d'adblocking. Le gros problème de la pub, c'est que dès lors que vous envoyez des mauvaises pubs à plein de gens, bah on finit par vous bloquer, c'est ce qui se passe. Et c'est ce qu'on voit aujourd'hui sur le desktop, c'est à la marge sur le mobile encore, mais si on continue effectivement à ne pas faire attention à ça, ça deviendra pareil. Donc personnaliser le bon message, la bonne pub, il faut d'abord connaître effectivement l'audience, c'est-à-dire qui sont les users, à qui on envoie une pub. Donc connaître ces gens-là, ça passe par un apprentissage de ces gens-là. De manière tout à fait anonyme, et nous c'est notre obsession au quotidien, parce que je vous parlerai justement de notre technologie, de notre DMP, Data Management Platform, que soutient d'ailleurs la BPI. Voilà, et que c'est pour connaître une personne, il faut pouvoir récolter un certain nombre d'informations, et que nous permet effectivement aujourd'hui le mobile. Grâce au mobile, on collecte beaucoup de data, de données comportementales et contextuelles qu'on emmagasine aujourd'hui autour d'une technologie et qui nous permettent de savoir effectivement si cette personne est plutôt un homme, plutôt un urbain, s'il a l'habitude de lire, s'il lit, c'est plutôt des romans. Vous voyez ce que je veux dire ? On a des tonnes d'infos aujourd'hui qu'on collecte au quotidien, qu'on enrichit, qu'on clusterise, comme on dit dans notre... On crée des clusters, des segments d'audience. Et effectivement, le but, c'est de connaître ces gens-là, d'éviter de leur envoyer des mauvaises publicités. C'est vraiment de les connaître et de leur dire, on connaît tellement bien cette personne. Alors, on connaît pas son nom, on connaît pas son prénom, on ne sait pas qui c'est derrière, voilà. Mais on sait que cette personne qu'on retrouve au travers d'un identifiant unique, donc là je commence à rentrer un peu plus dans des termes un peu plus techniques, cette personne-là que l'on retrouve au travers d'un IDFA ou d'un IFA, c'est l'identifiant unique que nous permet aujourd'hui, que Android ou Apple nous permettent de récupérer, le but c'est de toucher cet identifiant unique. Si je sais que tel IDFA a l'habitude de consommer des livres, plutôt des romans, et qu'une promo, on est sûr qu'une promo de tel ou tel bouquin va l'intéresser, c'est ce qu'on va chercher à lui faire. On va lui envoyer la bonne pub avec le bon message. Et là, ça finit par transformer. Et ça, c'est aussi une solution structurelle pour combattre l'adblocking. Voilà, parce que j'imagine que vous-même, à force de vous envoyer des pubs qui ne vous concernent pas, vous finissez par faire de l'adblocking. Vous savez, l'adblocking, c'est vieux comme le monde. C'est ce qu'on fait dans sa boîte aux lettres quand on met stop la pub, parce qu'on en a marre d'être spammé par de la publicité intempestive, intrusive et absolument pas adaptée aux besoins du consommateur. Tout ça est centralisé autour de notre plateforme Moksha, notre DMP. Alors des DMP, c'est un terme un peu barbare, mais c'est vraiment aujourd'hui des technos qui permettent de collecter, de traiter et d'enrichir une data sur les users pour pouvoir envoyer effectivement cette bonne pub. Et on est très fiers aujourd'hui d'avoir le soutien de la BPI justement, qui a décidé de financer la R&D de notre DMP 100% mobile, j'insiste bien. Des DMP, il en existe déjà dans le digital.
Vous parlez d'IFA, donc d'identifiant unique. Est-ce que c'est le moyen, selon vous, de rassurer aussi le consommateur, d'anonymiser? Je sais que vous faites appel à des data scientists. Est-ce que c'est dans cette idée-là aussi ? Est-ce qu'on protège encore la donnée ?
Alors, la donnée, c'est un point crucial. Il faut savoir que la donnée appartient à l'utilisateur. Donc, cette donnée-là doit rester complètement anonyme. Nous, on ne sait pas qui est derrière. On n'a pas le nom, on n'a pas le prénom de cette personne-là. Nous, on a des data comportementales. C'est-à-dire quelqu'un qui a cliqué sur, sur une pub de voiture. On peut dire potentiellement que c'est un intentionniste et que cette personne-là aime une voiture de telle ou telle marque. Mais à aucun cas, on a le nom de cette personne. La data, c'est un sujet touchy. Les data scientists sont là, non pas pour anonymiser, puisque la data est déjà anonyme. Ils sont là pour effectivement algorithmifier quelque part ou créer des algorithmes qui nous permettent de toujours mieux parfaire le ciblage et éviter de spammer nos utilisateurs. Voilà, ça c'est le rôle de nos économètres, c'est le rôle de nos data scientists qui sont là effectivement, mais toujours dans une problématique de ciblage. Voilà. Et concernant la data, il faut être en phase avec la loi. C'est-à-dire, il y a un véritable aspect juridique qui est très très important. Dès lors qu'on récupère une data comportementale, dès lors qu'on récupère une data associée à une IP ou associée à une donnée GPS, donc une donnée de géolocalisation, la loi nous oblige effectivement, après avoir utilisé cette data, à l'effacer, à la scratcher de nos bases de données. C'est une problématique qu'on traite au quotidien chez nous.
Merci beaucoup, Philippe.
Merci beaucoup.
Merci beaucoup, Aurore Géraud. Et on enchaîne avec notre dossier de l'atelier direction San Francisco maintenant avec Pauline Kantner et Agathe Foussa. On va parler avec vous, mesdemoiselles, d'AgTech. Vous le savez, ce croisement entre agriculture et technologie.
Oui, François, sujet spécial agriculture de précision aujourd'hui pour la sortie de notre étude sur le sujet qui est téléchargeable depuis le site internet de l'atelier. Alors, il y a plusieurs mois, quand je suis arrivée à l'atelier à San Francisco, Agathe Foussa, qui est assise à côté de moi, et Pierre Pariante, deux analystes stratégiques à l'atelier US, m'ont dit tiens, il faut qu'on te parle d'un projet qui devrait te plaire. Alors ce projet, c'était celui de construire une étude à paraître publiquement sur la révolution technologique qui se passe aujourd'hui dans le secteur agricole et ses impacts pour l'exploitant, mais aussi tous les autres pans de notre économie. Et il faut dire qu'à nous trois, on est plutôt bien équipés. Agathe est ingénieure agronome. Pierre, sous ses airs de jeune diplômé d'école de commerce parisienne, est un grand passionné du sujet. Et j'ai la chance moi-même d'avoir grandi dans une ferme. Alors est-ce qu'Agathe, tu pourrais nous en dire un peu plus sur le sujet de l'étude ?
Avec plaisir, Pauline. Donc pour cette étude, on s'est concentré sur ce qu'on appelle en anglais le data-driven farming, qu'on pourrait traduire par l'agriculture pilotée par la donnée. Un peu moins glamour, mais l'idée y est. Donc on a créé ce contenu suite à un constat très simple. On voit passer beaucoup d'analyses, d'études et de chiffres sur l'agtech, et surtout aux US, car c'est un sujet plutôt tendance. Mais on a remarqué que l'amalgame est souvent trop fait entre les startups de l'agtech et de la foodtech, qui sont les innovations dans la distribution et l'alimentation. Il nous semblait donc important de se concentrer sur l'agtech uniquement, et surtout sur une facette de l'innovation dans l'industrie agricole qui est celle de l'utilisation des données. Donc on a passé au peigne fin 92 startups américaines pour dessiner différentes tendances et comprendre l'ampleur des investissements. Parmi ces tendances, on retrouve par exemple les drones et la robotique, les capteurs pour la gestion de la production animale et végétale, les technologies satellites ou encore la gestion de l'eau. Pour tout vous dévoiler, il y a une catégorie qu'on a particulièrement adorée lors de notre travail d'analyse avec Pauline, et c'était les drones.
Alors oui, les drones démontrent des applications formidables pour la détection rapide de maladies dans les parcelles, par exemple. Et cependant, moi, j'ai la chance, donc encore une fois, d'être issue du milieu agricole français, Laura en particulier. Et pour être tout à fait honnête, à l'exception des films d'Hollywood, j'ai pas encore vu beaucoup de drones passer dans les exploitations de la région.
C'est vrai, Pauline, mais aux États-Unis, l'histoire est un peu différente. Parmi les startups de l'agtech qu'on a analysées, la catégorie des drones et de la robotique est la plus importante en termes d'investissement, avec la modique somme de 320 millions de dollars investis en 2015 quand même. Aussi, la catégorie des drones dans notre mapping représente un tiers des 92 startups qu'on a identifiées. Il faut dire que le marché agricole des États-Unis se prête plus à l'adoption des drones que le français. Les exploitations aux États-Unis sont très étendues, avec des budgets plus conséquents, ce qui aide à l'adoption des drones. De plus, une loi favorable est passée récemment en faveur de l'usage commercial des drones dans l'agriculture. Mais d'ailleurs, Pauline, les startups françaises ne sont pas oubliées pour autant et arrivent aussi sur le marché américain. La startup Sunsfly, qui appartient à Parrot, a par exemple reçu son autorisation en fin d'année dernière. Et si vous n'en avez jamais vu, Sunsfly produit des drones d'excellente qualité, munis de caméras et autres systèmes d'imagerie et de haute précision. Rappelle-toi, Pauline, on avait eu la chance de rencontrer un de leurs confrères aux États-Unis et c'était très intéressant de voir qu'ils n'avaient pas décidé de se concentrer sur les mêmes aspects.
Alors oui, c'est vrai, on a pris un café avec Max, le CEO de Maverick, c'est une startup américaine du secteur, et qui nous expliquait leur approche un peu particulière. Eux fournissent la plateforme d'analyse des images et disposent pour ça d'une armée de drones et d'entreprises partenaires qui leur fournissent les images. Donc en soi, l'agriculteur ne possède pas les drones, n'a pas à acheter et à comprendre la technologie. On voit donc qu'il existe plusieurs modèles économiques pour ces startups spécialisées dans les drones. Et on a eu souvent ce débat entre nous, avec Pierre et Agathe, à se demander concrètement quelle approche peut apporter plus de bénéfices pour les exploitants. Eh bien, probablement des solutions faciles d'utilisation, et par là, j'entends qu'ils ne requièrent pas de formation ou d'acquaintance particulière avec la technologie. Des solutions qui fournissent des recommandations actionnables directement priment nécessairement sur le reste. Et ce, d'abord parce que les agriculteurs n'ont pas le temps. Tu me diras pas le contraire, Agathe.
En effet, Pauline a complètement raison. Le monde agricole, pour produire mieux et plus avec moins, a besoin d'aide, mais de manière simple et rapide. Sur ce point, on est tous d'accord. Les agriculteurs ont un gros challenge qui est celui de gagner du temps dans leurs tâches quotidiennes. Les drones sont aujourd'hui très puissants et les différentes techniques d'imagerie associées sont très précises et diverses, allant de l'orthophotographie à la photogrammétrie ou encore à la technique du LIDAR. Ces différentes techniques peuvent permettre de mesurer une quantité incroyable de paramètres, le taux de chlorophylle, la surface des feuilles, le stress hydrique, l'état des sols, le besoin en azote et encore plein d'autres paramètres. Ça fait rêver pour les chercheurs, ce sont de très belles avancées technologiques. Cependant, le plus dur pour ces startups reste de parler le langage de l'agriculteur et de retranscrire ces tonnes d'informations en messages clés rapides à exécuter. On imagine aussi d'ailleurs très bien comment ces drones pourraient dans le futur directement exécuter certaines tâches à la place de nos agriculteurs 3.0. Ils pourront ainsi détecter, alerter, mais aussi traiter si besoin, permettant par la même occasion de tracer chaque action. C'est d'ailleurs un de nos gros autres sujets de débat avec Pierre et Pauline, comment ces technologies peuvent améliorer la traçabilité tant demandée par les consommateurs.
Alors tout à fait, aujourd'hui il subsiste un vrai besoin côté consommateur de savoir ce qui se trouve dans nos assiettes, comment ça a été produit, par qui, etc. L'agriculture pilotée par la donnée permet une véritable traçabilité, une meilleure transparence tout au long de la chaîne domaine de production. Pour les services financiers, c'est aussi une belle opportunité de personnalisation. Un des grands bénéfices de l'agriculture de précision et de l'agriculture pilotée par la donnée, c'est la capacité à prédire pour les agriculteurs. L'exploitant est capable, par exemple, d'estimer avec une certaine exactitude ses prochains rendements et donc ses rentrées d'argent. Dans le cas d'octroi de prêts bancaires, on imagine bien quelles utilités ça peut avoir. Et des services financiers à l'assurance, il n'y a qu'un pas. On pourrait, par exemple, notamment imaginer toute l'innovation dans l'assurance des récoltes, par exemple, ce qui est donc déjà très prometteur, n'est-ce pas, Agathe ?
On est bien d'accord là-dessus. L'agriculture de précision a le potentiel de raisonner au-delà des champs et des hangars. D'ailleurs, la révolution agricole nous rappelle beaucoup celle de l'industrie automobile, avec une voiture qui devient peu à peu complètement autonome et connectée. Et dans le cas de l'agriculture, ce qu'on peut observer pour l'instant, c'est que la partie immergée de la botte de foin, Pauline.
Pauline et Agathe, merci. On revient dans un instant pour la suite de cet atelier. Direction la rédaction de 01net.com. À tout de suite.
L'atelier numérique.
L'atelier numérique.
François Sorel sur BFM Business.
L'atelier numérique sur BFM Business, le crash test d'Antoine dans quelques instants. Guillaume de Groisse aussi sera là, mais auparavant, comme chaque samedi, il est à mes côtés. Éric Le Bourlou de la rédaction de ZeroNet.com. Bonjour Éric.
Bonjour.
Éric Le Bourlou, rédacteur en chef donc du premier site d'actualité high-tech en France, 01net. Et on va commencer par Facebook. Facebook qui est en train de travailler sur des mini-rémetteurs pour qu'on puisse avoir Internet partout tout le temps.
Oui, alors c'est une initiative. Alors on sait que Facebook, ça les intéresse beaucoup, la connectivité, hein. On sait qu'ils sont en train de préparer des drones pour couvrir la planète, etc., etc. Et là, ils viennent de lancer un nouveau projet qui est très intéressant à mon sens, qui s'appelle Open Cellular. C'est quoi Open Cellular ? Déjà, dans Open Cellular, il y a Open et il y a Cellular. Et Cellular, c'est quoi ? C'est une antenne relais, en fait, une antenne relais comme celle qu'on trouve un petit peu partout dans nos villes et dans nos campagnes aujourd'hui, un peu moins dans les campagnes d'ailleurs, qui vous permet tout simplement d'avoir du réseau mobile. La différence, c'est que Facebook propose un design, un concept hardware, du matériel qu'ils ont conçu eux-mêmes pour connecter les gens qui ne peuvent pas forcément avoir qui n'ont pas de connexion près de chez eux. Alors ça peut être effectivement les zones reculées du monde ou des zones rurales, etc., etc. Et surtout, ce qui est intéressant, c'est que c'est un boîtier que l'on peut fixer à un poteau, à un arbre. C'est un petit boîtier, ça consomme pas beaucoup d'énergie. Et surtout, c'est un boîtier open source. Autrement dit, tous les plans, tout ce qui compose ce boîtier sera disponible à tous. Donc n'importe qui peut en fabriquer un par lui-même, l'améliorer, le transformer, en faire de nouvelles fonctions. Et alors pour l'instant, ils n'ont pas livré tous ces plans, ça va se faire progressivement. Mais ça va permettre peut-être demain à des gens qui sont très très loin, qui n'ont pas de réseau mobile, alors ça marche de la 2G à la 4G, hein, ça marche aussi en 4G, de pouvoir à très peu de frais, beaucoup moins cher qu'une antenne relais classique, qui sont posées par les opérateurs, de faire leur propre antenne relais. Typiquement, par exemple, une collectivité locale pourrait dire on va investir un minimum d'argent là-dedans pour pouvoir avoir une couverture à peu près correcte de notre commune avec ce genre d'antenne. C'est très intéressant. Alors, on sait que ça participe d'une logique de Facebook. Ils font évidemment pas ça juste par pure philanthropie. On sait que Facebook, comme on le disait tout à l'heure, a envie de connecter le monde entier.
Un peu comme Google, c'est le même. Même objectif.
Exactement, c'est le même objectif.
Plus il y a des gens qui sont connectés à Internet, plus ils utiliseront leurs services.
Exactement. Et donc effectivement, alors il y a plusieurs initiatives. Facebook fait aussi dans le drone. Alors Google, on sait qu'ils ont le projet Loon avec ces ballons qu'ils veulent envoyer dans l'espace pour connecter ensuite au sol.
Et donc ça participe. Projet de satellite aussi.
Exactement. Il y a aussi tout un projet de plusieurs projets concurrents, d'ailleurs, de satellites qui pourraient couvrir de façon globale le monde entier, et ça participe un peu à ça. C'est un petit peu la boucle locale, on va dire, que ce projet qui est open source et qui est donc plutôt intéressant malgré tout.
Voilà, à suivre donc. Ouais. On enchaîne maintenant avec du jeu vidéo et on va parler de Nintendo. Nintendo qui n'est plus sur le front des consoles, en tout cas perd du terrain sur les consoles, mais qui malgré tout a des licences formidables en matière de jeux. Il y a du Zelda, du Mario et du Pokémon.
Exactement.
Et Nintendo est en train de changer son fusil d'épaule et d'apparaître sur les mobiles alors que c'était quelque chose qui se sont toujours refusés.
Oui, bon, on va dire que ça c'est un petit peu le carton de la semaine en matière d'appli. Alors ça s'appelle Pokémon Go. Ça n'a pas été lancé officiellement en France, mais déjà tout le monde, tous les fans de Pokémon l'ont déjà sur leur smartphone parce que c'est assez facile à installer. Mais effectivement, c'est un nouveau jeu Pokémon. Alors il a une particularité, ce jeu, c'est qu'il est effectivement sur Android et iOS et non sur console comme Pokémon traditionnellement. Mais mais son autre différence, c'est que c'est un jeu géolocalisé. C'est un jeu dans lequel vous devez vous déplacer en fait pour aller récupérer ces Pokémon, ces Pokéballs, et puis vous vous déplacez simplement dans votre univers, dans votre ville. Hein, où vous allez voir que quand vous lancez l'application, vous allez voir les rues de votre ville qui vont apparaître. Vous avez un petit personnage.
Et
vous
c'est-à-dire qu'en fait, voilà, on va jouer dans un environnement, dans notre environnement.
On joue dans son
géographique.
Exactement, on joue dans son environnement, dans nos rues. Alors là, par exemple, là, on est dans le 15e arrondissement. La station de tramway qui est juste à côté, c'est un endroit où on peut trouver
des Pokémon,
par exemple. et voilà.
Je vois que vous avez déjà testé.
J'ai déjà testé. Ouais, et... Effectivement, même si là il y a quelques difficultés de connexion, parce que c'est un vrai succès, ça cartonne. Il a même pas, avant même qu'il soit lancé aux États-Unis, c'était déjà un carton massif aux États-Unis. Donc il y a des petits problèmes de serveur pour l'instant. Mais
c'est pour ça d'ailleurs qu'il n'est pas disponible officiellement en Europe.
Exactement. Mais alors le truc, c'est que ce qui est aussi intéressant dans ce jeu, c'est que c'est un jeu de Niantic Labs. Et Niantic Labs, c'est qui ? Ce sont des gens qui ont fait évidemment avec Pokémon Company et Nintendo, mais ce sont les gens qui avaient créé Ingress. Et Niantic Labs, c'était une filiale de Google qui a créé le premier gros jeu comme ça en réalité alternée, on appelle ça comme ça, et qui a fait un carton monumental, hein, Ingress. Et donc c'est leur nouveau jeu qui est beaucoup plus accessible, beaucoup plus grand public, à la limite presque pour les enfants.
Bien sûr.
Mais Pokémon Go est sans doute promis un grand avenir.
Voilà. Rappelons que donc on ne peut pas télécharger en France pour l'instant. Alors il y a une petite bidouille. Hein,
oui. Alors une
que vous
bidouille.
Soyez sous Android. Alors sous Android, c'est peut-être plus simple que sous
oui,
iOS.
Oui, il faut simplement récupérer le fichier. De l'application.
APK, comme on dit.
Voilà. Tandis que sur iOS, il faut un compte dans
américain.
Le store, voilà, américain, par exemple, d'un des stores qui le commercialise.
Voilà, mais
et
si
c'est gratuit. Hein.
Si vous êtes un gros fan de Pokémon comme Eric, vous trouverez un moyen de télécharger.
Exactement.
Visiblement. On enchaîne avec Google. Google qui se prépare à l'avenir. Google qui, on le sait, fait très attention à la sécurité des données. C'est le paradoxe, hein.
Oui.
Même si, voilà, ils aiment bien savoir un peu ce qu'on fait, mais ils veulent malgré tout sécuriser leurs données. Et notamment le navigateur Chrome, ils veulent rajouter une couche de sécurité pour préparer l'avenir.
Oui, pour préparer l'avenir. Alors, c'est l'avenir, c'est pas demain, hein. C'est pour après-demain. Mais c'est assez intéressant que Google se pose déjà cette question et qu'il intègre déjà ce genre de technologie à son navigateur, hein, qui est aujourd'hui le plus populaire des navigateurs. Google veut nous défendre contre les attaques quantiques, contre d'éventuels hackers qui pourraient pirater nos communications, récupérer nos informations qui sont chiffrées lorsqu'elles transitent par Internet, tout simplement puisqu'ils ont accès à un ordinateur quantique. Alors, pour faire simple, un ordinateur quantique, ça n'existe pas encore, sauf à l'état expérimental. Google en a un, d'ailleurs. Mais une fois que ces ordinateurs seront disponibles, que la NSA, par exemple, on peut imaginer que la NSA s'intéresse à ce sujet-là, il serait très facile pour les gens qui sont derrière de déchiffrer l'intégralité des connexions sur Internet, parce que en fait ces ordinateurs sont conçus de telle manière à pouvoir casser les clés de chiffrement qu'on utilise aujourd'hui extrêmement facilement. Et donc Google a dit, voilà, nous on va déjà essayer de combattre ce fléau qui n'existe pas encore. Et c'est assez intéressant de voir que sur une version expérimentale de Chrome, on a déjà un algorithme qui permet théoriquement, puisqu'il n'y a pas pour l'instant d'ordinateur quantique sur le marché, mais de vous protéger contre les attaques qui pourraient avoir lieu dans 10 ou 20 ans et qui pourraient mener à des vols de données, par exemple.
Ouais.
Donc on va voir ce que ça va donner, mais effectivement c'est un joli coup de la part de Google de montrer que voilà, on travaille déjà à l'après et à comment demain on se fera pirater les données.
Voilà, l'informatique quantique, et au-delà de ça, apportera des choses inouïes, hein, en termes de puissance informatique.
Oui, c'est des choses qu'on n'imagine pas encore.
Voilà, ça va révolutionner notre quotidien, tout simplement.
Oui,
on peut imaginer que pour la recherche, etc., pour la médecine,
ce sera un bond en avant. Encore faut-il que ces ordinateurs soient vraiment programmables. Pour l'instant, ça reste très expérimental. Mais effectivement, Google, par exemple, travaille évidemment sur l'informatique quantique et en parle régulièrement.
Exactement. C'est comme passer du pédalo à un super bateau avec 50 moteurs qui va à 300 km/h. Quoi. En gros, c'est ça. On enchaîne avec Samsung. Samsung qui, alors qu'on connaît bien dans les télés, qu'on connaît bien aussi dans les smartphones, mais Samsung a une grosse activité pour tout ce qui est pièces détachées et notamment la mémoire. Vous savez, la mémoire que vous avez dans votre smartphone, dans votre tablette, les petites cartes mémoire qu'on peut acheter comme ça, eh bien, pour la plupart, c'est du Samsung à l'intérieur. Ouais. Et Samsung Eh ben, aimerait bien révolutionner tout ça.
Exactement, et vient de dévoiler en fait ce qui est peut-être le futur de la carte mémoire, toutes ces petites cartes mémoire que vous avez sûrement sur votre téléphone ou dans votre tablette. Ça s'appelle la carte UFS. Alors ça ressemble beaucoup à la micro SD, la toute petite carte que vous avez déjà, que vous connaissez déjà. C'est à peu près le même format, mais en fait à l'intérieur c'est très différent puisque c'est beaucoup plus rapide, mais vraiment beaucoup plus rapide. C'est 5 fois plus rapide en lecture. Autrement dit. Pour tous les nouveaux usages, par exemple, la lecture et l'écriture de vidéos 4K, par exemple,
oui,
et demain
en ultra haute définition, qui
énormément de bandes passantes, voilà. Eh bien c'est tout à fait adapté. Et ces cartes mémoire, ça y est, elles sortent, mais il n'y a pas encore de produit compatible.
Ah, ça c'est embêtant.
Voilà. C'est un petit peu Samsung dit ça y est, nous avons le nouveau format.
Physiquement, elle rentrerait dans un support.
Elle rentrerait, oui, parce que c'est à peu près le même format, mais derrière les petits oui. slots qui vous permettent de le connecter ne sont pas les mêmes. Oui. Donc ce n'est pas compatible.
Les connecteurs ne sont pas au bon endroit.
Voilà.
Quoi.
Ce n'est pas compatible avec de la micro SD, donc il va falloir évidemment de nouveaux matériels.
Tout réinventer,
tout refaire de nouveaux smartphones, etc., etc. Alors il se murmure que les prochains smartphones Samsung seraient compatibles avec cette norme. Qui permettrait à Samsung, non seulement d'écouler des cartes,
mais d'être le meilleur ambassadeur de sa technologie.
Voilà. Il faut dire que Samsung déjà exploite cette technologie au sein même de ses smartphones, pour sa mémoire interne. Et donc voilà, c'est comme ils sont béton là-dessus, ils disent, maintenant, commercialise ce nouveau format de carte mémoire qui est effectivement beaucoup plus moderne et qui nous prépare, en fait, à l'avenir, à la 4K, mais pourquoi pas demain, à la 8K, etc., etc.
L'objectif après de Samsung, c'est que ça devienne un standard et que
exactement,
les Sony.
Que tout le monde l'adopte, évidemment.
Et pourquoi pas
ça reste à voir.
Même si Apple, il n'y a pas beaucoup d'endroits où on peut rentrer une carte mémoire.
Apple, ils préfèrent verrouiller tout ça.
Voilà, exactement. À suivre, en tout cas. On va terminer avec Snapchat. Voilà, le réseau social qui cartonne actuellement, plutôt réservé aux jeunes. Hein.
Oui.
Même s'il y a de plus en plus de vieux.
Exactement, hein, d'ailleurs, ça commence à faire flipper les jeunes, on dirait.
C'est ça, exactement.
Oui, tout à fait.
Je sais pas vous si vous êtes trop vieux, mais moi, j'ai carrément décroché Snapchat. Quoi. J'ai essayé,
moi aussi, je suis trop vieux.
On comprend pas trop ce qui se passe et comment ça fonctionne. Mais malgré tout, Snapchat, le point de départ et la philosophie de Snapchat, c'est le fait de s'envoyer des photos éphémères qui disparaissent, en fait, hein, comme
exactement.
Par magie. Voilà, et qu'on ne peut pas sauver. Regardez, sauf si on fait une capture d'écran, mais à ce moment-là, la personne qui a envoyé la photo le sait.
Oui, exactement. Mais là, il y a un petit changement effectivement dans la philosophie même de Snapchat, puisque Snapchat a lancé cette semaine une fonction qui s'appelle Memories et qui va permettre à tous les gens qui utilisent Snapchat de sauvegarder leurs snaps, les choses qu'ils envoient à leurs amis pour éventuellement les renvoyer plus tard. Et c'est vrai que c'est un énorme changement dans la façon qu'avait Snapchat d'aborder les réseaux sociaux de façon éphémère, etc. Donc maintenant, les snaps ne sont plus forcément éphémères, vous pouvez les conserver. Alors vous pouvez toujours évidemment les effacer ou les mettre de côté pour personne ne les voit. Et c'est complètement optionnel, mais il n'empêche que c'est un sacré changement dans la philosophie de ce réseau social qui s'est bâti autour de ces photos et ces vidéos qui disparaissent.
Est-ce que ça va toujours autant plaire au public Snapchat, hein, parce que finalement le concept est vidé de sa substantifique moelle en quelque sorte.
On va voir, mais en tout cas ce qui intéresse aussi Snapchat, c'est peut-être en attaquer un autre public.
Exactement.
Qui est plus habitué à avoir sur Facebook ou sur Twitter des trucs qui
élargir son audience.
Qui restent. Exactement, élargir son audience.
Avec la crainte de faire fuir en fait ceux qui étaient venus justement pour la spécificité de Snapchat.
Exactement.
C'est pas facile, hein. Eh oui, c'est comme ça les réseaux sociaux. Merci beaucoup Eric.
Merci.
Eric Le Bourlot, rédacteur en chef donc de zeronet.com. Vous restez avec nous. Suite et fin de l'atelier dans une minute. À tout de suite.
L'atelier numérique. François Sorel sur BFM Business.
Encore quelques minutes à passer ensemble. On sera là bien sûr le week-end prochain. Vous le savez, l'atelier chaque samedi 16h-18h. Dans un instant, ce sera le crash test d'Antoine Cyr. Mais auparavant, notre décryptage avec Guillaume Degroisse de l'atelier. L'innovation entre grands groupes et start-up, c'est un modèle à la française, hein, Guillaume.
Alors mon cher François, vous étiez comme moi en fin de semaine dernière au salon Vivatech qui a été un vrai succès. Plus de 45 000 personnes, pas loin de 5000 startups présentes pour travailler avec des grands groupes, le président de la République, le ministre de l'économie Emmanuel Macron et la secrétaire d'État au numérique Axel Le Maire ou encore la présidente de la région Île-de-France Valérie Pécresse avaient fait le déplacement. Donc ce salon a réussi dès cette première édition à marier startups, grands groupes français dont BNP Paribas, pouvoir public et champion étranger de l'Internet. Et il a peut-être, sans le savoir, et sans le vouloir, donner le ton de ce qui pourrait être la troisième voie française de la révolution Internet. Alors, de quoi parlons-nous ? Risquons-nous un peu d'analyse, avec toute l'humilité nécessaire bien entendu, sur cette idée de troisième voie ? Les commentateurs tricolores, mais surtout étrangers de la French Tech, aiment à répéter que notre pays n'arrive pas à créer le Google français. Dans un article récent, John Evans de TechCrunch s'en est d'ailleurs donné à cœur joie sur l'échec programmé de la French Tech et la fuite des talents. Car ce n'est pas le taux élevé de mortalité des jeunes pousses dans l'Hexagone au bout de 2 ou 3 ans qui fait peser un risque sur la scène start-up française. Il n'est d'ailleurs pas meilleur ou plus mauvais qu'ailleurs. Mais c'est la stratégie de sortie, la fameuse exit stratégie, qui est la menace. La volonté des grands groupes de racheter les start-up de leur univers et celle de ces dernières de se faire racheter par des grands groupes le plus vite possible. Et ce n'est pas vrai que dans la tech d'ailleurs. Danone vient ainsi de mettre la main sur Michel et Augustin, plus belle réussite tricolore de l'agroalimentaire ces dernières années. Une dynamique gagnant-gagnant pour certains, ou perdant-perdant si l'on accepte la thèse selon laquelle ces rachats empêcheraient l'émergence des géants français de demain, notamment sur Internet. Alors, la venue à Paris des champions américains du web, Eric Schmidt de Google ou John Chambers, l'historique et charismatique patron de Cisco, à l'occasion de ce salon Vivatech, pourrait apparaître comme le baiser de Judas, celui des stars venus vérifier que leur ami français, le généreux pourvoyeur du crédit impôt recherche, ne donnerait jamais naissance en son sein à un potentiel rival. Et pourtant, à l'occasion de Vivatech, on a vu fleurir des annonces de coopération entre les grands groupes, y compris un géant peu attendu dans ce domaine comme LVMH, et des petites start-up, sans y percevoir l'habituelle domination capitalistique ou d'influence de nos multinationales. Des coopérations décomplexées, parfois décalées, où le grand affiche sans honte avoir besoin du petit, plus agile, plus innovant, plus ciblé. Et où le petit explique son gêne, accepter ce coup de pouce du géant sans avoir l'impression de vendre son âme ou son indépendance. On constate aussi que loin de tout racheter, les grands groupes cherchent maintenant des partenariats, des projets communs avec les nouveaux venus, une sorte de nouvel écosystème à la française. Certes, un écosystème différent du mythe américain de la naissance de la start-up dans un garage californien, mais finalement pas si loin de l'esprit de la Silicon Valley dont les patrons milliardaires investissent à tour de bras dans de jeunes sociétés en espérant qu'elles prospèrent, mais sans entraver leur liberté. La différence, c'est que dans ce frémissement français perçu à Vivatech, il ne s'agit pas d'investissement de personnes physiques, de business angels ou de VC, mais bien de personnes morales. Faut-il y voir une conséquence des mauvais souvenirs de certains capitalistes tricolores qui ont mal vécu l'éclatement de la bulle Internet il y a 15 ans, ou un phénomène lié à la fiscalité française ? Finalement, peu importe. Ce qui compte, c'est de voir dans le temps s'il ne s'agit que d'un épiphénomène ou si c'est une tendance de fond. Espérons que ce soit la seconde hypothèse, compte tenu des besoins de nos startups et des importantes réserves financières de nos grands groupes qui permettraient à la France de jouer un rôle à nouveau essentiel dans le marché globalisé de l'innovation.
Guillaume de Groisse, merci. Pour terminer cet atelier, voici comme chaque samedi le crash test avec Antoine Cyr.
L'atelier numérique sur BFM Business.
Mon cher Antoine, qu'est-ce qui vous arrive ? C'est les beaux jours qui sont bientôt là, les envies de mer, de sable. On va parler du paddle cet après-midi.
C'est exactement ça. C'est exactement ça, l'envie de sport, l'envie d'été, l'envie de bouger.
Eh bien, ça arrive, hein. Voilà. Écoutez, on y est bientôt.
Voilà. Alors, il y a cette envie de bouger, et donc il y a ce mot paddle qui circule. Voilà, vous croisez des gens qui vous disent qu'ils font du paddle, donc vous dites c'est ça doit être vachement bien.
Oui, 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 voilà, c'est branché un peu.
Ouais, c'est branché, c'est geek, hein, c'est pour ça que j'en parle dans le milieu numérique. Le crash test, parfois, c'est le lieu pour aborder la culture un peu geek. Et donc là, on est dans des sports qui vont bien avec la geekitude. Sauf que, quand on parle de paddle, de quel paddle parle-t-on ?
Oh alors, mon Dieu ! Il y aurait plusieurs paddles ?
Eh oui !
Oh là là !
Paddle, 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 oh là là ! Oh là là, oh là là, oh là là ! Alors, évidemment, aujourd'hui, là, tout de suite, quand on vous dit paddle, vous pensez sans doute au stand-up paddle.
Oui.
Vous connaissez. Donc le stand-up paddle, vous connaissez.
Le stand-up paddle, c'est celui justement qu'on utilise et dont on s'amuse l'été.
Avec lequel on s'amuse l'été. Sauf que vous allez voir, les autres paddles, on peut s'amuser l'été aussi tout
ah,
à fait.
Ah, d'accord.
Voilà. Donc le stand-up paddle est surnommé SUP. Les gens qui vraiment ne veulent pas employer des termes anglais disent tout simplement planche à rame. Et donc là, vous voyez.
Et là.
Là vous voyez, ça, c'est clair quand voilà. même pour et ceux puis, qui ne connaissent pas.
On fait plaisir à tous ceux qui détestent les anglicismes.
Et donc, c'est un sport de glisse où le pratiquant, en fait, est debout sur une planche qui est un peu plus longue qu'une planche de surf classique et qui donc se propulse à l'aide d'une pagaie, la pagaie étant le paddle en anglais.
Oui.
Et donc, voilà, c'est la pagaie.
Alors, pour les abdos, c'est terrible, hein, d'ailleurs.
C'est un vrai sport qui est né dans les années 60 à Hawaï et qui est revenu sur le devant de la scène il y a seulement 10-12 ans. Et donc la discipline se développe de petit à petit et se montre particulièrement adaptée lorsque les vagues sont petites. Parce que lorsque les vagues sont grandes, vous avez envie d'aller faire du surf et puis c'est ça qui correspond. Mais donc lorsque les vagues sont petites, on voit souvent un peu partout fleurir des
parce que c'est plus compliqué de rester debout quand il y a des grosses vagues.
Oui, bien sûr. Et le stand-up paddle, c'est vraiment un truc qui vous permet de marcher sur l'eau quand les vagues ne sont pas trop importantes. Enfin, de godiller sur l'eau. Mais c'est vrai qu'on a un peu l'impression de se déplacer en étant un peu comme un marcheur, puisque finalement, on est debout sur l'eau. Il y a une section du stand-up paddle qui est dédié à cette activité au sein de la Fédération française de surf. Donc vous voyez, la Fédération française de surf a été astucieuse.
D'accord.
Elle a préempté le paddle. Le problème, c'est qu'il y a un autre sport qui n'a rien à voir, qui s'appelle le padel, P-A-D-E-L, et qui est un sport de raquette, figurez-vous.
Tiens.
C'est un sport qui se pratique uniquement en double, en extérieur comme en salle, avec une caractéristique qui est que le terrain est clos, il est fermé par des vitrages, il est surmonté de grillages en fond de cour et de grillages sur les côtés. Donc c'est en
c'est
somme
une espèce de squash, mais
c'est une sorte
plus
de
grand.
Squash plus grand, exactement. Et ce sont les parois qui font. En fait, ça fonctionne beaucoup comme le tennis, mais en même temps, ce sont les parois qui servent de
faire rebondir la balle
de fond
sans
de
doute.
Cours. Ah voilà. Oui. Alors il y a des règles qui sont différentes du tennis tout de même, mais là où on voit que ça a un point commun avec le tennis, c'est que si vous vous promenez sur le web, vous allez voir par exemple que le grand promoteur du paddle en France, c'est un certain Henri Lecomte.
Tiens.
Donc il a son site Henri Lecomte Paddle. Il y a le Henri Lecomte Tour de paddle. Donc c'est vraiment un truc. Enfin ça se joue un peu partout. Et donc c'est Lecomte. Il y a des vidéos où Lecomte explique en quoi ça consiste, etc. C'est assez amusant de regarder d'où vient ce sport. Il a été inventé par un Mexicain qui s'appelait de son petit nom Enrique Corcuera, qui vivait à Acapulco, il y a pire. Seulement à Acapulco, le mètre carré est cher, et donc il n'avait pas assez d'espace autour de sa maison pour un court de tennis. Et donc, qu'est-ce qu'il fait ? Il construit un court de 20 mètres sur 10 mètres, encadré de murs hauts de 3 à 4 mètres.
Et comme ça, les balles ne partent pas.
Au lieu d'une raquette de tennis, il se rend compte qu'une espèce de batte plate en bois fera mieux l'affaire. Et donc, il y a un ami espagnol qui lui rend visite en 1974 et qui trouve ce sport tellement génial qu'il ramène l'idée avec lui à Marbella.
Tiens.
Alors là, ils étudient un peu, ils changent un peu
ils optimisent tout ça.
Ils optimisent tout ça, les dimensions. Et donc, les deux premiers courts de paddle sont construits au Marbella Club, où Alfonso de Hohenlohe, donc ça doit être une grande famille germano-espagnole qui doit dater du temps de Charles Quint, hein, et donc ce brave Alfonso de Hohenlohe partage donc cette nouvelle passion avec la jet set, puisqu'il y appartient, et donc évidemment...
Oui, ça devient un peu le sport à la mode. Là-bas.
Voilà, ça devient le sport à la mode, et donc c'est un sport qui aujourd'hui est en train de devenir à la mode en France, notamment dans le sud-ouest. Il est arrivé par l'Espagne dans le sud-ouest. Il y a eu beaucoup de tournois évidemment en Espagne qui ont été organisés sur la Costa del Sol. Le jeu a été emmené en Argentine. Sachez que aujourd'hui, il y a 2 millions d'Argentins qui jouent au padel et 3 millions d'Espagnols qui joue au padel. Donc c'est pas du tout un, quelque chose d'anecdotique.
Non.
C'est un sport qui s'est réellement développé. Et d'ailleurs, là pour le coup, ce qui est intéressant, c'est qu'on parle. Je vous disais tout à l'heure que le paddle, le stand-up paddle avait été préempté par la Fédération française de surf. Et là, il y a une Fédération française de paddle qui s'est créée, qui est différente de la Fédération française de tennis.
D'accord.
Et donc on voit bien qu'il y a une espèce de capacité de ce sport à s'autonomiser par rapport au tennis qui vient en fait de la croissance absolument frénétique qu'il a connue au cours des dernières années et notamment des 15 dernières années. Ce serait tellement simple si ce crash test s'arrêtait là.
Vous voulez dire par là qu'il y a d'autres paddles ?
Eh oui, il y a un autre sport qui s'appelle, lui, le paddle tennis.
Le paddle tennis.
Et donc, contrairement à paddle, le sport de raquette dont je vous parlais avant, qui s'écrit P-A-D-E-L, le paddle tennis, lui, s'écrit comme le stand-up paddle. Donc, cette fois-ci, c'est comme si c'était un tennis qui se joue avec une pagaie. Hein. Et donc, lui, il est beaucoup...
Il faut faire attention au joueur qui est à côté. Parce
alors, lui, il est beaucoup plus ancien. Il est joué depuis la fin du 19e siècle. Le court est plus petit, ne contient qu'un seul couloir au lieu de deux. Le filet est également moins haut. Et il se joue avec une raquette solide, des balles de tennis qui sont dépressurisées et un service qui se fait à la cuillère. Donc c'est une espèce de tennis beaucoup moins violent, évidemment, beaucoup plus doux. Alors là aussi, il est né pour des questions d'espace. C'est très amusant. Il est né sur des bateaux britanniques aux alentours de 1890 pour permettre de divertir les passagers. Et en fait, ce serait une forme de tennis donc adapté à l'espace disponible. Voilà. Et donc,
c'est
rigolo. Mmh. Ça s'est développé aux États-Unis. Ça existe aux États-Unis plutôt comme un sport d'extérieur, comme un sport de divertissement, beaucoup moins officiel que les deux précédents dont je vous ai parlé.
Le paddle tennis.
Le paddle tennis.
Eh bien voilà. Maintenant,
ne pas confondre donc avec le paddle qui
le
est
paddle,
un tennis aussi,
sûr,
et avec le stand-up paddle, qui lui est un surf.
Oh là là, rien que penser, là, ça nous fatigue. On n'a plus envie de faire du paddle. Merci beaucoup Antoine. Pour terminer ce crash test donc et cet atelier numérique, je vous souhaite un bon week-end. Bon samedi à vous toutes et à vous tous. On sera là évidemment samedi prochain, 16h-18h sur BFM Business, l'atelier numérique. Salut à tous.